VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, le 24 octobre, trois personnes ont perdu la vie dans l'attaque du poste de péage de Sanankoroba, non loin de Bamako, la capitale. Hier, un homme a été grièvement blessé par des tirs à sa sortie d'une banque. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence de la violence? Modibo Dembélé a joint le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité du Mali.
Je voudrais le déplorer. C'est une mauvaise coïncidence pour nous d'abord et surtout pour la population malienne, parce que nous savons que ce type de mauvaise coïncidence vient à ternir tous les efforts et toute l'image qui commençait à s'améliorer près de la population malienne. Quand nous avons un enchaînement d'éléments malheureux comme ce qu'on vient de vivre, ça porte un coup. Nous sommes d'accord pour ça. Les enquêtes avancent aussi bien sur le cas de Sanankoroba que ce qui s'est passé hier en plein midi devant une banque. Nous avons pu suivre un peu le mouvement du véhicule. Nous avons pu voir également ce qui s'est passé sur le parking. Les enquêteurs sont bien avancés déjà. Ils ont discuté avec la victime et ils cherchent à comprendre comment ce fait que monsieur était attendu à cet endroit précis alors qu'il y avait beaucoup de problèmes de sortie. Comment on savait que c'est lui qui avait autant d'argent sur lui en liquide et il s'apprêtait à faire une moto. Toutes les unités d'enquête sont mobilisées autour de cette affaire-là pour que la population ait la bonne information le plus rapidement possible.
Le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité du Mali. Référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire dimanche, les électeurs ivoiriens sont appelés à se prononcer sur la révision de la constitution initiée par le président Alassane Ouattara. L'opposition appelle au boycott du scrutin dont l'issue ne fait aucun doute. Salwa Jafari.
La grande inconnue de ce scrutin, c'est la participation. Qui ira voter parmi les 6,3 millions d'électeurs appelés aux urnes? Le débat constitutionnel ne passionne pas vraiment les Ivoiriens, plus préoccupés par la cherté de la vie. Pour le président Alassane Ouattara, cette révision constitutionnelle est fondamentale et doit permettre de tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué le pays pendant une décennie. Si le oui l'emporte, un poste de vice-président et un autre pour le Sénat seront créés. Une façon de préparer la succession de Ouattara, accuse l'opposition qui boycotte ce scrutin. Depuis la Cour pénale internationale, où il est jugé à La Haye, l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, a appelé à un désert électoral pour dire non à l'imposture. De son côté, Human Rights Watch dénonce l'attitude des autorités ivoiriennes qui ont organisé une campagne de 7 jours seulement et qui laisse peu de place à l'opposition dans les médias pour défendre le non au référendum.
Niger, les autorités nigériennes ont annoncé aujourd'hui l'annulation pour fraude massive d'un concours de recrutement de 452 fonctionnaires organisé depuis janvier pour le compte du ministère des Finances. Les détails avec Nani Talani.
Selon le secrétaire général du ministère de la fonction publique, ces fraudes massives ont été révélées par la haute autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées, la ALCIA, saisie par des candidats malheureux. Des notes ont été rehaussées et des candidats qui ont obtenu zéro dans les deux épreuves ont été admis avec des notes majorées et surmaquillées, ce qui a conduit le ministre de la fonction publique à annuler purement et simplement le concours par un arrêté. Les 452 agents avaient pris fonction et percevaient déjà un salaire. Certains ont même été nommés à des postes de responsabilité. Tous les droits acquis ont été révoqués. Plusieurs personnes impliquées dans cette vaste fraude ont été déjà écrouées. Abdoulaye Amadou, nommé contrôleur du Trésor après son admission au concours, proteste contre cette annulation et dénonce une décision criminelle. En juin, deux journalistes indépendants ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour avoir publié des documents relatifs à des fraudes à un concours pour devenir fonctionnaire impliquant d'importantes personnalités.
Togo, le Premier ministre français Manuel Valls est à Lomé pour une visite de 24 heures. Arrivé en début d'après-midi dans la capitale togolaise, Manuel Valls a eu des consultations avec le président du Togo, Fornia Singbe. Il doit aussi rencontrer la presse à la présidence togolaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA Paris s'est engagé à ne pas laisser tomber Bangui à la fin de l'opération Sangaris dimanche. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault en marge d'une réunion internationale à Paris consacrée aux opérations de maintien de la paix en milieu francophone. Les précisions d'Eddie Sango.
Selon Jean-Marc Ayrault, il était légitime que Sangaré s'arrête car la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, a pris les relais. L'opération française s'achève mais laisse une situation de fragilité en Centrafrique avec nécessité d'un accompagnement international. Le pays est toujours sous embargo international sur les armes. L'intervention française puis celle de l'ONU ont réduit les tueries mais n'ont pas réussi à stabiliser la situation sécuritaire. La France a envoyé ses soldats en Centrafrique en décembre 2013 pour mettre fin aux tueries. François Bozizé avait été renversé par une rébellion majoritairement musulmane, la Séléka, ce qui avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes. Sangaré se termine officiellement dimanche. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, y est annoncé.
Au Tchad, les magistrats tchadiens sont entrés en grève aujourd'hui et pour 2 semaines. Au micro d'Anastasie Tudiech, Djonga Orfi, secrétaire général du syndicat des magistrats tchadiens, explique les raisons de cet arrêt de travail.
Aujourd'hui, nous sommes dans un état de colère qui a conduit inélativement tous les collègues à demander de la cessation donc du travail.
Qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère?
La colère provient du fait que les indemnités des magistrats ont été abattues à hauteur de 80%. Et au Tchad, les indemnités constituent pour l'essentiel les salaires des magistrats. Nous vivons déjà une situation de précarité avancée. Les états généraux de la justice avaient demandé un relèvement de ces indemnités en vue de mettre les magistrats à l'abri des tentations. Voilà, aujourd'hui, on remet en cause ces principes, cet acquis, pour lesquels les magistrats se sont donc longtemps donc battus, et ce qui n'est pas de nature à accompagner le gouvernement dans sa lutte pour assainir ses finances.
Comment le gouvernement justifie-t-il cet abattement de 80% de vos indemnités?
Les raisons qui sont donc avancées, c'est que le pays vit un état de délabrement total, ce qui a amené donc nos gouvernants à pouvoir donc prendre ces décrets pour afin d'abattre les indemnités. Mais nous disons que même abattre les indemnités, comme il est question, doit en fait, s'il y a des actes qui sont pris, à la base, il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle le respect de la légalité. On ne peut pas prendre des actes pour juguler une situation au mépris des règles constitutionnelles et freinant ainsi à l'avancée vers un état de droit. Puisque nous avons dénoncé le décret, nous l'avons aussi demandé que le dit décret soit retiré. Aujourd'hui, les gens ont gardé un silence et nous avons donc réagi en décrétant donc ces 2 semaines de grève à partir d'aujourd'hui. Et nous demeurons au moins disposés au dialogue. Si nos partenaires sont conséquents, nous sommes également disposés à pouvoir donc dialoguer en vue certainement de parvenir à un consensus.
Et si vous ne parvenez pas à un consensus dans 2 semaines?
Le temps, nous le dirons, mais jusqu'à présent, je vous dis que c'est le statu quo ante.
Djonga Orfi, secrétaire général du syndicat des magistrats tchadiens. En Irak, la situation est dramatique autour de Mossoul, la grande métropole du nord du pays. Cette semaine, selon l'ONU, plus de 250 personnes y ont été exécutées par le groupe État islamique. En plus, près de 8000 familles ont été kidnappées alors que les troupes irakiennes s'approchent de la 2e ville de l'Irak. Le point avec Orzouma Compaoré.
D'après le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, en 2 jours, 214 anciens membres des forces armées ont été exécutés par balle. Selon l'ONU, 42 civils ont été tués par balle dans la tête dans la base militaire Al-Iza, près de Mossoul. Apparemment, ils avaient refusé de suivre des ordres des djihadistes. Par ailleurs, le Haut Commissariat a indiqué que les combattants islamistes ont kidnappé près de 8000 familles autour de Mossoul dans le but vraisemblable de s'en servir comme des boucliers humains. Pour les Nations Unies, les djihadistes emploient une stratégie dépravée et lâche face à l'offensive lancée le 17 octobre par les troupes irakiennes soutenues par les États-Unis pour la reprise de Mossoul, dernier bastion du groupe État islamique en Irak.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.